Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey,
on se tient en jus.
Bonjour et bienvenue dans On se tient en jus. Aujourd'hui, on est avec Charlie d'Angers et on boit un thé, un café, de l'eau. Rien, pas du tout de jus.
Salut Charlie, ça va ?
Oui, ça va et vous ?
Oui, ça va très bien. On va te présenter grâce à notre incontournable acrostiche.
Exact.
Ça devient incontournable, on est d'accord.
Ouais.
C'est comme créatrice de contenu sur les réseaux, même si à l'origine elle voulait être surfeuse professionnelle. C'est Wikipédia qui l'a dit.
H comme histoire et archéologie, ses sujets de prédilection.
A comme antiquaire, le métier de ses parents qui lui ont transmis le goût de l'ancien.
R comme rire, parce que dans tout ce qu'elle fait, il y a toujours une touche d'humour, parce qu'on apprend mieux en s'amusant.
L comme Les Revues du Monde, sa chaîne YouTube de vulgarisation historique, suivie par près d'un million de personnes.
I comme Isae Super-Héros. Hein ? Quoi ? Ouais, calmez-vous. C'est tout simplement le petit nom de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, pour lequel elle a fait un TEDx en 2019 sur le thème de la beauté.
E comme engagée, elle profite de ses vidéos ou de ses conférences pour faire passer des messages progressistes à travers des faits historiques, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
C'est fou, j'ai écouté avec passion. Genre,
on dirait qu'il découvrait.
Oui, super cool.
Ah, j'ai fait ça, oui, c'est moi.
Et donc, tu voulais être surfeuse professionnelle parce que
oui.
Tu as grandi vers l'océan ?
Bah, alors, en fait, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça sur Wikipédia comme si c'était genre un fait établi. Genre, elle voulait être. Non, j'avais aucune chance d'être surfeuse professionnelle. C'était moi quand j'étais enfant. Genre, comme je voudrais être vétérinaire ou astronaute.
Ah, c'était plus un rêve de gosse.
Ouais,
t'étais
pas
genre
ça.
Dans l'équipe de France.
Non, pas du tout. Bah, je faisais un petit peu, mais je veux dire, pas de façon suffisamment. Au niveau pour avoir une chance d'être surfeuse pro, mais c'était, je sais plus, j'avais dû dire ça dans une interview en mode ah ouais, j'aurais trop kiffé faire ça. Et encore une fois, c'était mon petit rêve de gosse ou de pré-ado. Mais c'était pas a thing, et maintenant c'est sur ma page Wikipédia apparemment. Mais
Wikipédia il s'inspire de notre journal d'idole ou quoi ? Enfin, moi il pourrait trouver genre elle voulait être maîtresse, oui d'accord, mais quand j'avais 6 ans quoi.
Ça
n'est plus valable.
Parce que t'habitais en
Bretagne,
ouais, c'est
ça ? J'habitais en Bretagne, et donc c'était assez courant. D'avoir des petites passions comme ça.
Tout le monde surfe là-bas ?
Non, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, dans mon coin, ouais, c'était une activité. Il y avait ça, ou alors l'autre penchant, à savoir les voileux.
Les
voileux,
ah,
c'est
faire du
de
char
la
à
voile.
Ouais. Du char à voile. De la planche ? De quoi ? Comment du bateau à voile ?
Bah ouais, de la voile.
Donc, on dit de la voile, ouais.
Ouais, il y avait ça. Mais ouais, j'aimais bien l'océan, j'aimais bien la mer, et comme je savais pas trop ce que je voulais faire, c'était ça, ou devenir aventurière. Mais aventurière, c'était pas un métier, on m'a dit.
Est-ce que c'est pas un métier ? On peut pas être aventurier, aventurière ? Si tu voyages,
personne
te paye pour faire des aventures. Quoi.
Je me rappelle que j'avais mis ça sur ma fiche, justement, en mode qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Aventurière, et on m'avait dit c'est pas un métier. alors, Madame Trémoureux, on a eu tort.
Tu te considères comme une aventurière maintenant ?
Aventurière du monde, aventurière de la terre. Non, pas du tout. Un petit peu. Je dirais que franchement, parce que mon nom de famille c'est Danger. Du coup, on me faisait souvent la blague de ah, c'est trop drôle, ton nom de famille, on dirait un pseudo, etc.
Oui,
et ce que j'aime bien dire, et qui est assez vrai, c'est que globalement, quand tu t'appelles Danger, t'as deux choix de carrière. Soit tu deviens archéologue, soit tu deviens actrice porno. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube.
Mais aventurière, tu peux le faire grâce aux nouveaux métiers aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux. Tu peux faire le tour du monde en étant payé par des marques,
c'est vrai,
pour
faire
des vlogs, des aventures.
Les nouvelles aventures de Charlie, toi.
Ouais.
Les aventures de Camille et Justine.
Oui. Allez, vous pouvez nous payer pour qu'on fasse le tour du monde. Ok, donc non, c'était pas un rêve plus que ça.
Je le découvre là, apparemment.
Oui, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on dit des trucs dans les acrostiches, les gens découvrent ce qu'il y a sur Wikipédia.
Ouais. J'adore. C'est un petit plaisir de lire les fiches Wikipédia des gens et de leur en parler, parce que vraiment, c'est Noémie Delattre qui en parle en ce moment en disant qu'elle, malheureusement, elle a une espèce de vendetta. Enfin, il y a des gens qui s'amusent à les modifier, parce que Wikipédia, c'est libre d'accès, même si c'est pas si facile de modifier. Mais du coup, que toi, en tant que. Même si c'est ta page, t'as pas un accès privilégié, en fait. pour dire mais c'est pas vrai, enfin c'est moi en fait, je le sais. Et elle, il y a des gens qui s'amusent à aller mettre des trucs faux sur son Wikipédia.
Non, mais c'est surtout qu'il y a des gens qui s'amusent, elle, elle a bataillé pour être catégorisée comme autrice, et il y a des gens qui tous les 4 matins vont écrire auteur à la place. Voilà. Ouais, ouais, les que... combats, les combats des gens.
Non, mais tu te dis normalement tu pourrais dire eh oh, c'est moi, enfin c'est ma fiche.
Mais c'est ce qu'elle dit, ouais.
Décider. Et non, en fait, pas
c'est
plus.
Mais c'est parce qu'en fait, en même temps, d'un côté, je vois le truc négatif, et de l'autre, ça a aussi ses avantages, dans le sens où justement Wikipédia, ils ont un fonctionnement où il faut qu'une information soit vérifiée par plusieurs sources, y compris des sources qui sont pas considérées comme primaires. Donc par exemple, si là, dans cette interview, je dis bonjour, je suis Charlie Langer et j'en sais rien, j'ai un prix Nobel, bon bah c'est considéré comme une source primaire parce que c'est moi qui l'ai dit. Pour autant, ça pourra pas figurer sur Wikipédia, même si vous l'avez entendu en exclusivité sur Camille et Justine. mais du coup, non, ça pourra pas être sur Wikipédia parce qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs autres magazines ou articles qui aient publié l'information de elle a reçu un prix Nobel, nanana. Et donc ça évite comme ça les fake news. Donc par exemple, si... Enfin, je pense que s'il y a des vendettas sur des notions comme un mot, autrice, auteur, là je comprends qu'il y ait un peu de harcèlement. Mais sur, par exemple, des fausses informations, ça fait un filtre. Parce qu'en fait, même si tu mets une fausse information, par exemple, là, si je modifie votre page Wikipédia en mettant que, j'en sais rien, moi, vous êtes amatrice de plantes, peu importe, on s'en fiche. S'il n'y a pas plusieurs articles pour le corroborer, bah, ça sera supprimé dans l'heure ou dans les jours qui viennent.
Ok, vous entendez, arrêtez de dire que j'aime les plantes. C'est clair.
Ok, je me battrai toute ma vie pour que Wikipédia arrête de dire n'importe quoi.
Et donc, tu as fait un TEDx.
Oui.
Et en fait, quand j'ai vu un peu les infos, derrière, il y a eu, t'as eu une vague de cyberharcèlement. Est-ce que c'est tout... quelconque femme fait un quelconque prise de parole publique,
j'allais dire,
se fait cyberharceler, ou il y avait vraiment un axe spécifique, enfin non pas que ça justifierait le cyberharcèlement, mais je veux dire, est-ce que c'était un truc un peu gratos de juste parce que t'es une meuf, ou est-ce que t'avais été titillée des...
Je saurais pas trop dire en fait ce qui s'est passé, parce qu'en soi je trouve pas que ma conférence était particulièrement choquante, et j'ai même pas pris d'ailleurs de position particulière pour celle-ci. J'ai juste énoncé des faits qui relèvent de la littérature scientifique, certes qui défendent une thèse qui est la mienne, et d'ailleurs je fais la conclusion à la fin en disant que là par contre ça relève de mon avis personnel et de ce que moi j'aimerais dans un monde idéal faire, mais j'ai reçu beaucoup de messages à la suite de la publication de la vidéo. Alors je vais pas non plus nier, il y a eu énormément de messages de soutien et aussi de messages de jeunes femmes qui m'ont écrit en me disant des trucs adorables du style ça m'a vraiment permis de relativiser sur plein de choses, ça m'a fait réaliser des trucs et tout.
Parce que, attends, juste parenthèse, en gros dedans tu parles de la beauté, enfin des dictates à travers l'histoire en gros.
Alors en fait c'est pas tant axé sur la beauté, c'est vrai qu'il y a une grosse partie après du coup qui est partie là-dessus, mais à la base de la base, le cœur du sujet c'est la compétition intersexuelle féminine, c'est la rivalité féminine en fait. Et il se trouve que dans notre société aujourd'hui, elle est beaucoup axée sur des notions de beauté, mais parce que justement, c'est ce que j'explique dans la vidéo et dans la conférence, c'est lié à des siècles d'histoire et aussi un petit peu de biologie, même s'il ne faut pas essentialiser tout ça. Et donc, en fait, l'idée, c'était plus de décortiquer. Tiens, c'est drôle parce qu'en tant que femme, on va toutes être confrontées à un moment donné dans notre vie à ces phénomènes de compétition intersexuelle qui peuvent être plus ou moins prononcés et qui peuvent se traduire par plein de situations différentes, y compris les filles qui se pensent pas du tout concernées. Parce que je pense qu'on aura peut-être des auditrices là qui vont se dire « Mais moi, j'ai jamais été jalouse d'une autre fille, c'est pas moi et tout. » Mais bien, sachez que le phénomène de « not like the other girls » c'est littéralement pas comme les autres filles, c'est également un phénomène de la compétition intersexuelle. Mais du coup, tout ça pour dire qu'on est toutes confrontées à ces phénomènes-là, plus ou moins de façon forte, traduites de façon très différente, et moi j'avais envie d'en parler, parce que il y avait encore une notion à l'époque de tabou, j'ai été une des premières à en parler de la façon dont j'en ai parlé. Il y avait une grosse couche de malaise social en fait, parce qu'on a toutes individuellement un peu de mal peut-être à se dire même à nous-mêmes qu'on peut ressentir des fois un malaise quand on scrolle sur Instagram et qu'on tombe sur des profils de Nana à la Emily Ratajkowski, on se dit mon dieu mais pourquoi est-ce que mon corps ne ressemble pas à ça. On a toutes été déjà confrontées à ça, et peu importe qui on est, peu importe ce à quoi on ressemble, en fait c'est des situations qu'on retrouve systématiquement, et je m'étais posé la question de pourquoi pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à ne pas s'aimer de cette façon-là ? Pourquoi est-ce que, par exemple, quand je vais à un rendez-vous important, je ressens le besoin de bien m'apprêter parce que je sens que ça va avoir un effet positif ? Alors j'ai commencé à plonger un petit peu mon nez là-dedans et dans la littérature scientifique, parce que c'est mon taf. Et en fait, je suis tombée sur des trucs absolument fascinants. Plein d'études. Alors, on a des trucs en biologie, des trucs en sociologie, des trucs en anthropologie, des relais aussi un petit peu historiques. Et c'était fascinant, en fait, de mettre un petit peu tout ça en perspective pour avoir une sorte de vision plus globale d'une problématique qui, je pense, freine à peu près toutes les femmes, globalement, à un moment donné dans leur vie, ou dans leur carrière, ou dans leur projet perso. Et comme c'était un sujet qui n'avait jamais été traité, en tout cas moi je l'avais pas vu traité de cette façon-là à l'époque, eh bien je me suis dit let's go. Et donc j'ai fait une TEDx dessus, et les retours étaient donc très positifs d'un côté, et j'ai aussi eu des retours très 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 véhéments.
De la part de femmes ou d'hommes ?
Non, je crois que c'était la part d'hommes. Alors en fait je saurais pas te dire pour
parce
être
qu'on parlait
franche,
pas d'eux pour une fois.
Ouais, mais surtout j'avais pas vu que c'était des profils oui. Tu sais anonymisés oui, tu sur internet, j'en savais rien. Alors certains si, parce qu'ils disaient bah en tant qu'homme, en fait c'était beaucoup de remarques du genre bah alors les femmes toujours à se crêper le chignon, et en fait tout ça c'est stéréotype sexiste. Bah justement on
t'as écouté la conférence du coup.
Ouais voilà, c'est ça. Mais et puis aussi beaucoup de parce que je le lis à la fin à une position qui pour le coup est une position personnelle et qui est un petit peu imbriquée dans tout ce qui est féminisme et tout ça. Et forcément quand on est une nana déjà on tolère sois gentille ferme ta gueule. Mais alors en plus si on a le malheur de parler de féminisme et qu'on n'avait pas, je pense que c'est lié à ça, c'est qu'à l'époque j'avais pas été catégorisée par ces personnes là comme féministes.
Donc ils ont été déçus.
Ouais c'est ça. Je pense qu'il y a dû avoir un truc comme ça de oh mon dieu. Oh non.
Elle aussi.
Ouais, voilà.
Bah oui, on préférait quand tu faisais juste des revues d'histoire et que tu t'engageais pas dans le féminisme des hystériques.
Exactement. Ouais. Et surtout qu'en plus, encore une fois, mon propos est pas du tout... J'ai réécouté d'ailleurs il y a pas très longtemps en me disant ça m'intéresse quand même, qu'est-ce que j'ai pu dire qui les a froissés. Et en fait, non, j'ai pas eu l'impression en plus d'avoir tenu un propos particulièrement clivant. Bon, peut-être que si, mais en tout cas, ça m'a valu des menaces de mort, des menaces de viol et plein d'autres joyeusetés.
Ce que je trouve fou, c'est que du coup, c'est en souvent... Enfin, je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais... Souvent, c'est en faisant ce reproche-là, par exemple, à des personnes qui ne sont pas spécialement catégorisées féministes ou militantes ou activistes, qui juste tiennent un propos comme toi, tu as l'impression d'avoir tenu, c'est-à-dire dans ta ligne artistique, et que tu te fais taxer de féministes trop extrêmes et qui sont déçus et tout, et derrière, tu as envie de leur dire, mais en fait, allez vous faire foutre, bien sûr que je suis féministe. Et nous, je sais que nous, c'est ce qui nous a plus énervé et qui a fait qu'aujourd'hui, on tient des propos qui sont finalement vachement plus véhément, c'est parce qu'on s'en est pris dans la gueule à des moments où on pensait pas du tout faire parfois on fait des réels qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont hardcore, tu vois, abusés, c'est très léger, c'est très humoristique, et quand on s'en prend dans la gueule j'ai envie de dire mais en fait, franchement allez vous faire foutre quoi. Et ils nous rendent encore plus véhémentes et ils se font prendre à leur propre piège en fait. Enfin,
mais j'ai l'impression que c'est un souci qui va dans les deux sens, à la fois sur toutes les questions de la gauche et à la fois sur toutes les questions de la droite, où on retrouve aussi des gens, de façon générale en fait, quand tu te prends un harcèlement de masse dans la figure, ça n'a pas tendance, étonnamment, à te faire changer de position. Bah enfin, oui, j'ai pas cette impression-là, en tout cas je pense pas que ce soit une technique efficace si tel est leur but, mais je pense pas que tel est leur but. Je pense qu'il y a vraiment une question de... ils essaient pas de nous faire changer d'avis en fait.
Ils sont juste touchés dans leur ego, mais surtout que là on parle d'une conférence en plus qui les concerne pas directement.
Non, et c'est ça, et la conclusion vraiment, alors du coup la position un peu radicale éventuellement que je peux tenir, c'est en conclusion en vrai, tant que, enfin pour l'instant on est dans une certaine dynamique qui nous pénalise toutes, venez on change de dynamique et il suffit d'un mouvement, d'une femme, puis de deux, puis de trois, puis de quatre, et on pourra faire créer un point d'inflexion où à un moment donné en fait ce qui n'était pas considéré comme la norme deviendra la norme. Et c'est juste ça la position. Donc ouais. Si ça les a chauffinés, mon dieu.
Oui, c'est ça. Fragile.
Ah non, mais vraiment, là pour
la
le coup,
fragilité masculine.
Là, c'est vraiment exactement la fragilité. C'est-à-dire que ça ne parle pas d'eux, ça ne s'adresse pas à eux, ou du moins ça s'adresse à tout le monde, c'est pas visé vers
pire,
les hommes.
Ça pointe
quoi.
Du doigt un patriarcat.
Ah, vraiment, derrière, des choses, mais... voilà, des mecs qui s'enflamment de cette conférence en disant qu'ils sont pas contents. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a ?
En fait, c'est un reproche qui a souvent été. Je fais une petite parenthèse, une petite digression, vous me dites si c'est hors propos, mais c'est un truc qui a souvent été reproché, j'ai l'impression, à certains vidéastes de vulgarisation scientifiques, en particulier spécialisés dans l'histoire. Je pense à mon collègue Benjamin Briot de la chaîne Nota Bene ou à ma collègue Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire. On est aujourd'hui les trois chaînes avec le plus de visibilité sur Internet à parler de ces thématiques-là. Et on est tous les trois face exactement aux mêmes critiques de la part donc, de certains qui est qu'on instrumentaliserait l'histoire à des fins politiques. Ouais. Parce que bah, du coup, bah, certaines conclusions apparemment ou certains sujets traités seraient orientés. Et en soi, moi je trouve cette critique très intéressante. D'ailleurs, je suis très ouverte à la critique de manière générale, donc pourquoi pas. Et sauf qu'en fait, les historiens le disent eux-mêmes, c'est que les propos qu'on relate, en tout cas je pense parler pour nous trois, mais ce sont simplement des faits. Et il se trouve que parfois les faits ne vont pas dans un sens qui défend une idéologie plutôt qu'une autre, c'est juste les faits tels qu'ils sont. Et il y avait eu, d'ailleurs je crois que c'était le compte Passion Médiéviste sur Twitter, si je dis pas de bêtises, qui avait, je dis peut-être une grosse bêtise, mais c'est un des comptes comme ça, historique que je suis, qui avait fait une réponse comme ça à l'extrême droite en expliquant qu'en fait bah, c'est pas une instrumentalisation de l'histoire, c'est simplement que parfois bah, l'histoire telle qu'elle est et pas forcément, sert pas leurs convictions à eux, qui sont des convictions idéologiques, etc.
Mais c'est quand même très hypocrite, parce que justement, aujourd'hui, il y a pas mal d'historiens qui, ou d'historiennes aussi, qui démontrent que les vérités justement historiques avec lesquelles on a grandi n'en sont pas. Notamment des choses sur les peuples très anciens où les squelettes qu'ils retrouvaient, ils pensaient que c'était toujours des hommes alors qu'il y avait des femmes, qu'ils ont compris qu'en fait les femmes restaient pas forcément dans la caverne à préparer des peaux de bêtes pour faire des manteaux à leur mari. Enfin, tu vois, il y a eu plein de choses qui ont été remises en question et c'est hypocrite parce que j'ai l'impression qu'ils estiment que amener ce nouveau fait, c'est servir une idéologie woke. Oui. Alors qu'en fait, on est en train de vous dire que justement, c'est parce qu'avant, on avait une idéologie patriarcale à mort qu'on n'a pas eu, on n'a pas travaillé les faits de la bonne manière. Et du coup, c'est hyper hypocrite.
Oui, c'est
ça. Enfin, en fait, ils remettent en question la parole des historiens ou des vulgarisatrices scientifiques aujourd'hui, mais ils ont pas idée de remettre en question la parole de ceux qui ont établi des faits qui étaient faux à l'ancienne. Quoi. Ils n'arrivent pas à se mettre ça dans...
Pour des raisons idéologiques.
Oui, en fait, c'est ça.
Et oui, je suis d'accord avec toi. Et moi, ce qu'on m'a reproché typiquement dans ma conférence TEDx, du coup, c'est que je défendrais la position de les femmes ont subi le patriarcat dans l'histoire parce qu'on dépendait des hommes pour notre survie. Et donc, on aurait mis en place... Donc, quand on dépend des autres pour notre survie, à savoir que tout... notre vie entière dépend de comment est-ce qu'on va se marier, comment est-ce qu'on va être choisi et préféré par des hommes, et ben on peut mettre en place des stratégies évolutives en fait pour bah, être choisi précisément. Et donc être choisi, ça veut dire qu'on supplante une autre femme par essence. Et donc du coup c'est tout ça que je développe, mais ce que je dis là-dedans, c'est pas une position féministe. Quand je dis que les femmes ont dépendu des hommes pendant de très nombreuses années et pendant de très nombreux siècles pour des trucs de base, comme avoir, j'en sais rien moi, un compte en banque, travailler ou j'en sais rien, ou le droit de vote.
Bah parce que même à l'ancienne, le mariage, la création du mariage, c'était tu veux mes terres, épouse ma fille et tu posséderas ma terre.
Enfin, en fait, quand je dis ça, il n'y a pas de revendication politique derrière. C'est simplement un fait de... En effet, quand on a une partie de sa vie qui va dépendre de comment est-ce qu'on se marie et de comment est-ce que quels sont les hommes de notre entourage, la conséquence directe de ça, c'est que il faut faire attention à toutes ces choses-là, à être avoir la vie la moins misérable possible.
En fait, ils luttent fort pour pas comprendre que notre société est patriarcale depuis des centaines d'années, des siècles, des millénaires, en fait. Enfin...
Mais de toute façon, le féminisme n'est pas ou ne devrait pas être une revendication politique. C'est juste une envie de mettre à égalité les hommes et les femmes dans le monde. Enfin, de fait, c'est une revendication parce que c'est pas le cas. Du coup, nous, on revendique, nous, les féministes, on veut que ça change. Mais ça devrait même pas... En fait, ça devrait même pas être un sujet. Et du coup, les seuls que ça dérange... On se demande toujours pourquoi ça les dérange, bah parce que ça remet leurs privilèges en question. Enfin, les hommes qui sont dérangés par les féministes sont des hommes qui préfèrent pouvoir agresser impunément, pouvoir être au-dessus, avoir un salaire supérieur aux femmes, avoir le pouvoir.
Mais ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, comme tu viens de dire, ce que toi, quand tu pointes du doigt, enfin, t'expliques ce conditionnement par rapport au mariage qui nous a créé des
schémas.
Non, mais quand on est en bataille, enfin des guerres, de la compétition entre les femmes, et qu'en gros, toi, tu expliques ça et qu'on te dit « Ah, c'est féministe de penser ça !» Et du coup, Ça se trouve, au début, tu le disais pas en disant c'est féministe, tu disais c'est un état de fait. Et, et derrière, ça nous oblige en fait à dire oui, ok, c'est féministe et il faut que ça change. Enfin, et on a envie d'aller vers autre chose. Mais ce en qui fait, est dingue, c'est qu'en fait, c'est ça à la base.
Tu l'as très bien résumé. C'est quand je dis simplement, on a vécu des siècles d'un schéma qui a fait qu'on a dû créer des mécanismes de survie qui sont liés du coup à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est pas féministe en soi, c'est un fait. Par contre, dire et je veux que ça change. Ça, c'est féministe. Et en fait, c'est ça, je pense, qui a peut-être dérangé avec cette conférence. C'est que je fais toute la partie principale de simple exposition des faits. Et ensuite, je termine en concluant avec ma position personnelle qui est « et j'aimerais que ça change ». Et donc, peut-être que c'est ça qui a énervé, j'en sais rien.
Mais oui, oulala.
Honnêtement, je ne prendrais pas le pari. Je pense que même si tu ne disais pas « il faut que ça change », ils auraient trouvé à redire du fait que tu pointes du doigt des choses qui sont de leur faute. Mais c'est fin.
De base, ils retrouvent toujours quelque chose.
Ta faute à toi, Michael, mais...
S'il y a bien un truc que j'ai appris en quasiment 10 ans d'Internet aujourd'hui, c'est que peu importe ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, ce que je peux faire ou ce que je ne fais pas, de toute façon, je me ferai haïr. En vérité, pour être très franche, je pense aujourd'hui qu'il s'agit davantage d'attendre l'occasion plutôt que de prendre une occasion valable et ensuite me démonter.
Bien sûr.
Moi, ma valeur principale dans la vie, ma petite... Voilà, je fais un peu de...
mantra.
Mon mantra, c'est vraiment la remise en question. C'est quelque chose que je valorise beaucoup chez moi, chez les autres, de manière générale. Je crois très fort en notre capacité et je pense que c'est ce qui fait qu'on peut être des bonnes personnes, y compris quand on fait des mauvaises actions, de se remettre en question, de réfléchir sur ses actes et de réfléchir sur des pensées et d'évoluer. Et en ça, moi, je suis vraiment pas du tout fermée à la critique, voire même tout l'inverse. Je suis capable de reconnaître qu'il y avait des formats que j'avais il y a 10 ans qui étaient vraiment très nuls à chier, et des vidéos d'ailleurs que j'ai retirées de la chaîne, les toutes premières, où j'en suis pas du tout fière, et donc du coup je les ai virées. Et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression en fait que les détracteurs, donc ceux qui en l'occurrence me harcelaient sous cette vidéo TEDx, mais aussi ceux qui me harcèlent aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il s'agit davantage d'une haine profonde, d'une haine viscérale de quelque chose que j'incarne, de quelque chose que je représente, à savoir une femme qui parle de science sur internet et qui n'est pas triple docteur, donc pour eux qui ne méritent pas, enfin même si je remarque, même si j'étais triple docteur, Manon est docteur.
Manon Bril,
oui, avec un E. Manon Bril, voilà. Et pour autant, elle s'en prend aussi plein la gueule. Donc, en fait, je pense que c'est même pas une question de qualification.
La haine viscérale des femmes, hein, pardon. Les gens ont du mal à entendre qu'on dise ça, mais la vérité, c'est que les féministes veulent faire un monde meilleur pour que les femmes aillent bien, mais parce qu'on vit dans un monde où il y a une haine des femmes qui est viscérale et que nous, on se prend dans la tête très régulièrement. Nous, en tant que youtubeuses, mais plein d'autres femmes à plein d'autres endroits de la planète, en fait.
Mais peu importe, en fait. Si on joue avec les règles, si on joue avec les codes patriarcaux, donc j'en sais rien, le fait, par exemple, de mettre un décolleté, etc., on va nous insulter de pute. Si on le fait pas, on va nous dire qu'on est trop fermé, qu'on est coincé, qu'on est ceci. En fait, c'est face, tu perds, pile, je gagne. Il n'y a aucune façon de s'en sortir. Et c'est ça que j'ai compris ces dernières années, c'est qu'en fait, bah, quitte à faire. De toute façon, anyways, je m'en prendrai plein la figure. Ouais. Donc au bout d'un moment, bah, autant tracer ma route. Et puis ne pas regarder derrière et juste bah tant pis, on m'en foutra toujours plein la gueule pour ça c'est un truc qui me fascine beaucoup, c'est que donc ça fait quasiment 10 ans que je suis sur internet, il y en a beaucoup des vidéos et le seul truc qu'on me reproche, c'est une erreur que j'ai fait pendant un live une fois et on me le ressort mais vraiment systématiquement à toutes les sauces tout le temps, et en plus je l'ai faite parce que j'étais sous pression, enfin bref, longue histoire, et on me le ressort H24 en mode « voilà la preuve qu'elle est vraiment débile ». Et moi, j'ai envie de répondre « mais pas de souci, critiquez mon travail, allez-y, critiquez mes vidéos YouTube, mais pourquoi vous me reprenez sur une... Ça vous est jamais arrivé de vous tromper une fois ?»
Et puis surtout, t'as reconnu que tu t'étais trompée.
Bah oui, complètement.
Ouais, en fait, pourquoi les gens nous détestent à ce point? Ça me fait mal au ventre. Enfin, en fait, je réalise, là, quand tu parlais, vraiment, me sont revenus en tête toutes les fois où avec Justine, on tombe sur des vidéos de... on va dire de gros youtubeurs bien connus qui invitent une femme tous les 3 ans quand ils daignent bien avoir comme invité une femme et qui est celle qui s'en prend plein la gueule dans les commentaires. Enfin, comme par hasard, on lit les commentaires et c'est oh, pourquoi vous avez invité elle, elle est nulle.
Oui, dommage. En fait, dommage, l'équipe est bien, mais il y a elle, c'est chiant. Non, mais c'est fou.
En fait,
on a pris du temps à regarder ça et ouais.
J'en ai marre et je fais un petit appel là pour les gens qui nous écoutent. quand vous tombez sur ce genre de vidéo, par pitié, mettez des commentaires positifs en fait sur le fait qu'il y a des meufs, parce que du coup, comme il y a tous les bouffons qui viennent mettre en commentaire c'est de la merde quand t'invites elle, ah bah c'était mieux quand il n'y avait pas elle, et ben je pense que ça donne un peu raison à ces gros youtubeurs, et je genre au masculin volontairement, et du coup ils n'invitent pas ou plus
de se dire bah ça marche moins bien, mais même au-delà des commentaires, en plus ça marche moins bien, vous regardez les clics de youtubeurs sur YouTube, vous regardez quand il y a une meuf dans une vidéo ou plusieurs meufs, les vidéos elles font moins de vues statistiquement, et souvent les vidéos font moins de vues.
Tu sais que moi c'était un commentaire que je recevais assez régulièrement, où en gros je pense que ça devait être surtout des hommes qui me disaient ta chaîne est vraiment trop bien et tes vidéos sont trop cool, mais ce serait bien si tu pouvais mettre genre un de tes potes à la présentation, c'est plus agréable une voix masculine et ronde comme Nota Bene, un côté un peu père Castor nanana et tout, et ta voix insupportable ça va pas, etc. Et ça on me le reprochait souvent en fait, que j'ai une voix féminine.
Pardon d'être nous, du coup. Pardon.
Excuse-moi d'exister.
Excusez-nous d'être des femmes.
Vraiment,
et d'avoir envie d'essayer de faire des trucs.
Et à l'inverse, on va dire à des mecs, mais mettez une meuf avec un bon décolleté là devant la vidéo, parce que comme ça attirera plus les foules. Non, mais vous voulez quoi en fait? Effectivement, pile tu gagnes, face tu perds. Enfin, non, c'est pas ça le.
Et moi, je me suis longtemps remise en question, du coup, parce que comme je vous l'expliquais, c'est une valeur qui est hyper importante pour moi, et donc du coup, bah quand j'ai fait cette erreur, je ne pouvais que admettre, en effet, je me suis trompée sur la bataille de Serlis. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est stupide parce que ça remet pas en question mes compétences de vulgarisatrice scientifique. Critiquez-moi sur mes vidéos, attaquez-moi sur mes vidéos, mais la vérité c'est qu'ils peuvent pas, et je pense qu'il doit y avoir une frustration, et quand j'ai fait cette erreur, ça a catalysé un truc de enfin ça y est, on peut y aller, let's go. Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils s'acharnent autant sur cette erreur qui en vrai est pas si ouf que ça, mais c'est parce que ça leur permet, ça leur donne cette espèce de passe-droit de dire Charlie Danger est stupide,
est nulle,
et c'est ce qu'ils veulent en fait, pouvoir avoir l'affirmation de je suis stupide, parce que ça les rassurerait.
C'est ce qu'on disait, on en parlait avec Rose Lamy qui tient la page Préparez-vous pour la bagarre, et qui pointe du doigt des faits, enfin des choses sexistes qui se passent dans les médias, et elle avait notamment pointer du doigt le fait que pendant là les présidentielles, toutes les femmes politiques étaient taxées de nulles et d'incompétentes, là où on n'allait jamais, ou de débiles, enfin vraiment, on avait vraiment vers ça, ce qui n'est pas quelque chose qu'on reprochait aux hommes, alors qu'il me semble qu'il y en a aussi qui sont incompétents. Enfin, on a eu quand même une campagne avec Zemmour qui disait connerie sur connerie, non-sens et mensonge sur mensonge, démonté deux secondes après par tous les professionnels de ce dont il parlait, et personne n'a dit Zemmour est incompétent et nul, enfin, alors que je pense qu'on avait de la marge, tu vois.
Dans la sémantique, il y a un autre phénomène que je trouve hyper intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'était sur la notion où en fait, moi je fais de la batterie, et il y avait Carlito qui avait fait un tweet il n'y a pas très très longtemps, où il demandait c'est qui pour vous le meilleur batteur du monde. Et j'ai lu les réponses à ce tweet, et il y avait énormément de réponses, énormément de propositions et tout, pas une seule femme.
Et
ça m'a fait de la peine parce que bah, pour le coup moi j'en connais Carpenter etc, des femmes qui sont de très bonnes batteuses et qui auraient mérité d'être ne serait-ce que citées. Et après j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit c'est drôle parce que on dira jamais de moi que je suis une génie. C'est-à-dire que je peux être excellente dans un, je dis pas que c'est le cas, mais je pourrais théoriquement être excellente dans un million de trucs, la vulga, faire de la batterie, de la peinture,
de
la photo, etc. Léonard de Vinci, il était excellent dans plein de domaines, on a dit c'est un génie. Peu importe, Bidule fait une blague un peu drôle, on dit oh c'est un génie. Mais on dit jamais d'une femme c'est un génie. Citez-moi une femme génie. En fait, le mot génie est systématiquement associé à du masculin.
Bah déjà, un génie.
Oui, un génie.
Il n'y a pas le féminin.
Nous, on peut être ingénue.
Oui,
oui, évidemment. Et ça, on peut l'être très bien.
Et j'ai trouvé ça triste parce que je me suis dit, peu importe, en fait, in fine, mes compétences, ma capacité, mon talent ou non dans un domaine en tant que personne, je ne serai jamais
génial.
Génie.
Génie.
Je ne sais pas, ça m'a rendu triste parce que ça fait comme si... Du coup, c'était tout un... Enfin, alors non pas que c'était une ambition personnelle, hein, je pense pas que j'en sois capable, mais juste, c'est difficile, du coup, de se projeter quand tous les modèles comme ça de trucs qu'on définit comme génial sont pas associés, par exemple, à des personnalités. Quand tu penses à des génies, ouais, tu penses à Léonard de Vinci ou Einstein. Tu penses pas, j'en sais rien, moi, à Marie Curie, c'est petit quoi que peut-être un petit
peu... C'est peut-être une des rares qui... Mais encore, c'est quand même...
Mais pas forcément la première qui tienne, tu vois.
Genre la qualifier de génie. Pour autant,
est-ce que tu veux dire, est-ce que c'est son mari qui a reçu le prix Nobel quand c'était ses recherches? Ah oui, voilà, peut-être.
Oui, c'est ça. Mais évidemment que les mots ont leur importance. Et du coup, pour revenir au tweet, de toute façon, rien que la question, comment elle est posée, enfin, qui est le meilleur batteur du monde, ça donne en fait. C'est-à-dire que même si t'en connais une,
oui,
même,
ça a été prouvé.
Ça donne même pas envie de répondre ça parce que tu dis ah mince, je vais répondre à côté de la question si je dis.
Mais d'ailleurs, je me suis permise de répondre du coup et j'ai préféré demander dans l'équipe parce que ça se trouve et lui ce qu'il voulait, ce qu'il sous-entendait, c'était quel est le meilleur batteur. Et dans ces cas-là, bon bah j'aurais rien eu à dire. Enfin, je veux dire, il a le droit de demander ça. Il dit ok. Mais en fait, il m'a confirmé que oui, ça pouvait être batteur ou batteuse. Et donc du coup, il était d'accord sur mon choix de Carpenter. Mais en soi, c'était intéressant parce que du coup, enfin oui, je sais pas parce que. C'est vrai que dans certains domaines, typiquement les sciences, typiquement certains domaines de la musique ou peu importe, comme c'est une majorité d'hommes qui sont présents dans ces domaines et qui sont considérés comme les pontes, comme les mastodontes, c'est difficile de se créer un imaginaire. Et je pense qu'avant de commencer une discipline, il doit y avoir cet imaginaire de rêverie un petit peu nécessaire pour se projeter dans ce métier, pour se projeter dans cette passion, et qui déclenche, qui est l'étincelle à l'origine de la passion. Et quand on n'a aucun modèle sur lequel on peut se représenter ou s'imaginer, ça a du mal à faire partir l'étincelle.
Bah on se dit que c'est pas pour nous, enfin qu'on n'est pas invité. Du coup, on va les laisser entre eux parce que c'est.
Bah tu te projettes pas, tu t'imagines pas quelque chose
si
que pas tu
représenté.
N'as jamais vu.
Bah oui, évidemment.
Quelque chose que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas que tu peux le faire. Et d'où l'importance, comme on a dit plein de fois, de la représentation, que ce soit pour les femmes ou pour les personnes non blanches ou pour les personnes handicapées, les personnes LGBT, l'importance de se voir faire des choses et de te dire je peux le faire. Et d'où l'importance, même si ça paraît dérisoire, du langage. Vraiment, moi je me rends compte à quel point quand on me dit, de toute façon il y a eu des études qui ont été menées là-dessus, mais quand on te dit justement quel est le meilleur batteur en vrai, vous pourrez me dire ce que vous voulez sur le masculin qui serait neutre, non, dans la tête de l'immense majorité des gens, ils vont du coup penser à un homme automatiquement.
Ça n'invite pas
alors
à répondre
que si
une
tu
femme.
Dis quel est le meilleur ou la meilleure batteuse bah que tu imagines, là ça y est, tu ouvres ta porte, quitte à ce que ce soit pour te dire merde, je connais aucune femme batteuse. Tu vois, mais ça ouvre la porte. Arrêtez, s'il vous plaît, de croire ou d'essayer de me faire croire que le masculin est neutre. Même quand on pose une question, c'est faux, archi faux. Et dans ton imaginaire, quand tu dis il y a un docteur, tu verras toujours un homme. Tu vas pas imaginer une femme, même si ça peut être une femme. On a fait plein de tests. Il y a des tests comme ça d'écriture où tu dis il rentre, il va chez le docteur, elle lui tend sa feuille de soins. Et les gens, ils sont là, hein, quoi ? Il y a une faute de français ? Eh ben non, parce que dans la langue masculin neutre, le docteur, ça peut être une femme.
Et c'était d'ailleurs Viviane de l'excellente chaîne que je vous recommande chaleureusement, Syllabus, qui a fait une très très bonne vidéo sur l'écriture inclusive, où pour le coup, alors c'est très drôle parce qu'elle met 1 million de pincettes et de drapeaux blancs en mode non mais pitié, me tapez pas, et on va juste parler de science et de ce que la science en dit, nanana, évidemment elle a quand même reçu des remarques comme nanana féministe, alors qu'en fait c'est vraiment pour le coup juste des études scientifiques, mais c'est assez intéressant. Et je crois que c'était elle qui s'y parlait justement de l'importance de la langue sur la formation de la pensée. La façon dont on pense est directement associée à la langue. Et d'ailleurs, je crois qu'elle citait une étude, alors je ne saurais pas vous dire laquelle, il faudrait que j'aille revérifier sur la vidéo, d'une tribu, un peuple qui avait plein de mots différents pour citer une couleur. Par contre, il leur manquait, ils avaient vraiment un seul mot pour regrouper toutes les couleurs en fait, ils n'avaient pas de mot pour le bleu. Je crois que c'était associé à du vert. Ils avaient plein de mots différents pour décrire le vert parce qu'ils en avaient dans leur environnement. Je crois que c'était ça. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais à revérifier. En tout cas, c'était une couleur qu'ils n'avaient pas assez de mots pour la décrire. Et ensuite, on leur a montré une roue avec plein de couleurs différentes, y compris une tache bleue, mais bien visible. Il n'y a pas de truc de... par exemple, les personnes qui sont... comment est-ce que ça s'appelle ? Colorblind. C'est...
Daltonien,
voilà. Il n'y avait pas de ça. Non, vraiment, c'était une tache bleue. Ils étaient absolument incapables de la décrire parce qu'ils ne voyaient pas la différence, parce qu'ils n'avaient pas le mot. Le langage construit notre pensée. Et en ça, du coup, si c'est vrai qu'on nous répète toute notre vie un batteur, les batteurs, regardez les batteurs, regardez les scientifiques. Il y a un truc comme ça où peut-être qu'en tant que nana aussi, on ne se projette pas dans ces trucs-là.
C'est sûr, même.
Ou moins, en tout cas.
Et les hommes ne nous projettent pas dedans non plus. Et d'où l'idée que quand d'un seul coup, on dit « au fait, je suis autrice », ils se tapent la tête contre un mur parce qu'ils sont là, mais non, ça n'existe pas. Et je ne vois pas pourquoi on a besoin de ce mot, puisque eux, techniquement, ils n'en ont pas besoin. Si t'es un homme et que t'es auteur, tu n'as pas besoin que le mot autrice existe. Ou si t'es un homme et que t'es pas auteur, d'ailleurs. Mais...
Et pour en revenir justement à Noémie Delatte qu'on citait en début d'épisode, elle, c'est un de ses chevaux de bataille. Le langage, justement, qui construit la pensée. Un de ses chevaux de bataille.
Je trouve que ça sonne mieux.
Un de ses chevaux de bataille.
Oui.
Ça me paraît curieux, je vous le dis.
Après, les filles, je trouve que auteur, ça sonne quand même vachement bien. Moi, il me fume cet argument parce qu'on sait, tu laisses 50 ans avec l'utilisation d'autrice, et puis ça se choque. Plus
moi,
personne.
Ça y est. Hein. Vraiment, c'est en toute bonne foi, mais alors vraiment de ma meilleure des bonnes
fois. C'est rentré.
Il est rentré normal pour moi, ce mot. Vraiment, il ne m'écorche plus. Il y en a qui peuvent m'écorcher, je t'avoue.
Les gens sont.
La batteuse, par exemple, je vous avoue, quand vous disiez batteuse.
Moissonneuse batteuse.
Je le trouve moins évident, mais par contre, je suis chaud. De ouf. Mais autrice ne me pose plus la moindre problématique. Hein.
Ouais. Pour le coup, batteuse, je pense que c'est pas un mot qui a été réhabilité, contrairement à autrice ou peintresse. Mmh. C'est un mot pour le coup qui existe
aussi.
Ah bah oui, peintresse.
Ça, je connaissais pas trop.
Mmh. Ah, mais ce qui est fascinant aussi avec tous ces mots, c'est que ce sont pas des mots qu'on a sortis de notre chapeau. Non. C'est des mots qui existaient et qu'on a dégagés.
Ouais,
donc c'est pour ça, moi, quand ça me fume quand il y en a qui font l'appel à l'histoire pour justement décrier l'utilisation de l'écriture inclusive ou l'utilisation de ces mots, j'ai envie de leur dire, PTDR, non, l'inverse. Reverse Uno, tu vois.
Oui, bah c'est exactement ce que... Et c'est pour ça qu'on s'en prend à sa page Wikipédia, à Noémie Delatte notamment.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
L'auteur-autrice, c'est parce qu'elle passe beaucoup de temps à faire des vidéos sur justement l'importance du langage et la façon dont ça construit la pensée et la façon dont elle essaye d'adopter au maximum une écriture inclusive qui fait siffler les oreilles de plein de gens, mais en même temps, c'est complètement normal. Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu autrice, même si pourtant il existait évidemment il y a plus longtemps, la première fois que je l'ai entendu, j'étais là, pas joli, mais c'est bon, pareil, oui, comme évidemment. Toi, il est rentré là complètement dans ma tête, donc juste un petit effort de patience pour tout le monde, c'est
oui,
pas...
Oui, puis sinon, aller trouver d'autres hobbies, enfin, oui, que d'être heurté comme pas permis par un mot, vas-y, t'es fragile.
Mais c'est chiant, l'écriture inclusive, ça prend beaucoup plus de temps.
Non, mais et surtout dans ces cas-là, si on s'arrête sur le fait que certains mots sont moches, donc il faut pas les utiliser, puis personne dit, j'en sais rien moi, une goulée. C'est moche une goulée, pourtant personne s'offusque. Hein.
Oui, oui. Non, mais il y a des mots qui sont vraiment très moches.
Un boyau.
J'ai encore une question à poser.
Bah vas-y.
Je peux.
Bah oui.
Je m'autorise.
Mais on la laissera tirer au moins une question vite.
Oui, bien sûr. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'est venu sur le fait qu'on te reprochait du coup de. On pouvait te reprocher de pas. D'être orienté, ou toi, ou à Nota Bene, ou à Manon, sur vos chaînes quand vous parlez. Mais. Est-ce qu'il faut être neutre ? Je me dis, si c'est pour que tu nous expliques des faits qu'on peut lire dans un livre d'histoire, ça sert à quoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi les gens veulent ça ?
Je pense que ça dépend ce qui est reproché. Alors, pour le coup, je ne parlerai pas sur le cas de mes collègues comme Nota Bene, etc., parce que je ne connais pas assez spécifiquement les reproches qui leur sont faits. Je pourrais parler uniquement de ma chaîne. Mm-hmm. Moi, ça va, j'ai pas trop... Enfin, si, j'en ai, mais ça reste assez soft, les questions de l'orientation de la chaîne. En fait, ce qui peut être orienté, c'est pas le fond, parce qu'en soi, le fond, il est revérifié par trois historiens, on a des relecteurs, on a des documentalistes. Là-dessus, je pense relativement que c'est pas trop... Enfin, que c'est plutôt carré, en tout cas, j'essaie de le faire. Il peut y avoir des erreurs, mais ça reste... Bref. Mais ce qui peut être orienté, c'est le choix de la ligne éditoriale, éventuellement. Par exemple, le fait de choisir de traiter de certains sujets ou de ne pas traiter certains sujets. Et ça, je pense que ça dépend aussi des affinités et de l'expérience de chacun. Moi, c'est vrai que je vais avoir plus d'affinité à parler de certaines périodes, tout simplement pas par conviction ou par choix politique, je veux dire, mais plutôt, par exemple, pourquoi est-ce que je parle pas beaucoup de Napoléon sur ma chaîne ? C'est parce que j'ai un griffe spécial contre Napoléon. Mais, mais parce que c'est pas forcément la période qui me fascine, ou en tout cas où j'ai vraiment un truc à dire, où je sens que je pourrais apporter une plus-value particulière dans ce domaine, contrairement à d'autres périodes comme, j'en sais rien, l'Égypte ancienne ou ce genre de choses. Et il y a également un choix, là pour le coup, qui relève de la ligne éditoriale, où des fois j'ai une ligne éditoriale qui est orientée, dans le sens où par exemple, je vais pouvoir parler de sujets qui n'ont jamais été traités. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. J'ai par exemple une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « L'époque où les femmes n'avaient pas de sang ». Et c'est un sujet, c'est une de mes vidéos préférées pour une raison, c'est que c'est un sujet qui n'avait jamais été traité tel quel sur Internet. Aussi bien, alors à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais en tout cas de toutes les recherches que j'ai pu en faire, également avec les personnes avec qui j'ai travaillé sur cet épisode, il n'y avait rien à ce sujet dans la littérature anglaise ou dans la littérature francophone. Et c'est une vidéo qui parle du fait que il y a fort longtemps, les premiers hominides, femmes, n'avaient pas de poitrine permanente. On avait une poitrine pendant les périodes d'allaitement et pendant les périodes de grossesse, comme tous les autres mammifères, mais c'est tout. On ne gardait pas une poitrine gonflée comme aujourd'hui, toute l'année, H24, pendant toute notre vie.
Ce serait bien.
Bah oui, mais ça c'est un trait évolutif, donc on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on a gagné ce trait-là, d'où est-ce que ça vient, et donc c'est hyper intéressant, mais cette question-là, je n'aurais pas été capable de la soulever, qui était une question originale qui n'avait jamais été traitée, si un jour je ne m'étais pas retrouvée dans ma douche à mater mes boobs et à me dire « mais attends, pourquoi est-ce qu'on est les seuls mammifères à avoir des seins tout le temps ?» Et cette question, j'ai pu l'avoir précisément parce que j'ai une expérience en tant que femme humaine. Et oui. Peut-être que si ça avait été Nota Bene, alors peut-être que si il s'interroge là-dessus ou sous sa douche, je n'en sais rien, mais lui il aurait peut-être pas pu avoir cette réflexion parce qu'on n'a pas la même expérience de vie. Et donc c'est là où je trouve aussi que du coup c'est important la parité dans tous ces milieux-là, c'est que peut-être qu'on va avoir des réflexions, des idées, des questionnements, des problématiques qu'on va soulever de par notre expérience qui n'avait pas été soulevée avant.
Quand on ne parle pas de sujets qui concernent pile poil l'homme blanc, hétéro, cisgenre, valide et qu'on en est un nous-mêmes, c'est comme si dès que tu parlais d'autre chose, t'es orienté, t'es forcément engagé. Bah non, on parle juste de d'où on est et de qui on est, et forcément que quand tu regardes l'intérêt de t'abonner à la chaîne de Charlie Danger, c'est de savoir ce que toi, Charlie, t'as à me raconter avec ton point de vue, ton vécu, ce que tu es, sur ce que tu connais. Sinon, j'achète un livre d'histoire, effectivement, si je vais suivre des gens. Donc je trouve ça fou de reprocher à des gens d'être eux-mêmes ou elles-mêmes, en fait. C'est-à-dire que il y a la neutralité, elle est nulle part. N'importe quelle chaîne de télé, n'importe quel journaliste, il a peut-être choisi, lui ou ses supérieurs ont choisi des sujets. Même quand Pernaud, il allait chercher le festival de je sais pas moi, de la charrette à côté d'Angoulême, et bah, c'est parce que lui, ça l'intéressait.
Non, il
n'existe
pas du tout, ce festival.
Ça se trouve,
tu dis n'importe quoi.
Dédicace à tous ceux qui font le festival de la charrette. Non, mais tu vois, ils ont, en fait, ça aussi, c'est orienté, parce que c'est orienté vers le bon vieux petit peuple. Enfin, tu vois, ils voulaient avoir cette vision du mec qui aimait le petit peuple franchouillard, tu vois. C'était archi orienté aussi. On lui disait pas, du don, Pernaud, qu'est-ce qu'il est engagé? Bah pourtant, si, en fait.
Mais quand tu regardes absolument tous les contenus, du coup, si on part sur cette base-là, moi, la critique, je la prends, il n'y a aucun souci. En effet, des fois, ma ligne éditoriale, comme l'exemple que je viens de citer, est en effet orientée, mais orientée par, par mes intérêts. Et en fait, du coup, si on part de ce principe-là, absolument tous les contenus qui sont regardés sur Internet sont aussi des contenus orientés. Quand j'en sais rien, j'ai pas envie de faire du name dropping, mais quand certains vidéastes font des vidéos où ils vont parler d'un sujet avec un certain angle sans forcément de contradictoire, c'est orienté, pourtant on leur dit rien.
Mais c'est ok, en fait, en vérité.
Oui,
juste dire c'est ok, mais je pense que c'est le but aussi de choisir de regarder des gens, quoi.
Je pense qu'en particulier, on cristallise quelque chose aussi en parlant d'histoire, c'est que l'histoire, déjà, c'est une science humaine. Donc on va pas casser les couilles, j'en sais rien moi, à Étienne Klein parce qu'il parle de physique quantique en lui disant oh là là qu'est-ce que vous êtes orienté. Mais du fait que l'histoire soit une science humaine, du coup automatiquement il y a des rapports en plus de politique, donc forcément ça touche à des choses. Et également aussi historiquement, l'histoire a été plutôt une science récupérée par la droite, hein, pour revendiquer aussi certaines opinions ou positions politiques ou des croyances ou ce genre de choses. En tout cas, ça a été aussi associé à quelque chose d'assez noble. Il y a tout comme ça un imaginaire de l'historien avec sa bibliothèque à la... Alain Decaux et tout, même si c'était un bro un petit peu. Et en fait, de ce fait-là, quand on sort un peu des sentiers battus ou qu'on commence à avoir une ligne éditoriale qui parle pas de l'histoire. Vraiment, quand on pense histoire, on pense à l'histoire de la France, bien française, avec toutes ces choses-là. Et quand on sort de ces carcans, j'ai l'impression que du coup, ça sort aussi de l'imaginaire qu'on se fait de l'histoire. Et donc, peut-être que ça gêne un petit peu plus.
Bah oui. Mais surtout qu'on n'a pas tout appris, nous, dans les livres d'histoire, quand on était au collège. Il y a plein d'histoires qui ont été mises de côté et que ça arrangeait bien.
Tiens, par exemple, le programme scolaire, très intéressant, parce que c'est un très, 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 très gros choix politique et de ligne éditoriale.
Bah oui, évidemment.
Personne ne s'offusque de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on ne raconte pas dans les programmes d'histoire collège-lycée. Alors oui, il y a une grosse partie qui est traitée, mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas abordées et qui seraient peut-être intéressantes
vu comment on aborde la colonisation.
Oui, voilà. Et je pense, et je pense d'ailleurs que moi, mes vidéos, à titre personnel, il y a aussi une grosse part de divertissement. J'ai absolument pas la prétention de dire que je suis un cours didactique pour entrer en détail ou fouiller un sujet. Moi, je suis plus une sorte de petite porte d'entrée vers une curiosité ou un intérêt pour faire découvrir un sujet et peut-être créer des passions et après que les gens aillent voir les sources que j'ai mis à disposition, etc. Mais j'ai pas vocation à être un cours. Mais quand en plus on a vocation à être un cours sur quelque chose, je trouve qu'il y a encore plus de portée sur la ligne éditoriale. Moi je fais juste des vidéos de divertissement. Mais YouTube, oui, c'est une plateforme de divertissement. Donc,
tous ces haters, j'aimerais bien les renvoyer vers le livre d'histoire et qu'ils aillent pointer du doigt dans le livre scolaire de leur enfant ou de leur cousin ou de eux quand ils étaient petits en disant dis donc ça. Là il y a de quoi être un hater, je pense, ou une hateuse. On ne dit pas tellement ça non plus.
Bah non, parce que justement, ces haters-là, c'est ceux qui ne veulent pas voir la vérité.
Du coup, c'est d'une hypocrisie sans fond. Oui, parce que tu viens de dire à une nana qui fait une chaîne YouTube avec sa ligne édito, son regard, sa vision, ce qu'elle a envie de raconter aux gens, et tu viens lui dire oui, t'es pas objective, bah non. T'es pas neutre, bah non. Et pour autant, tu donnes des faits qui sont vérifiés et qui sont hyper sourcés. Et ils sont jamais allés remettre en question le JT qu'ils voient parfois, ou justement le manuel scolaire, en effet, je trouve ça un très bon exemple. Ils vont pas aller remettre en question ça, ce qui est quand même. Bah, c'est hypocrite. Voilà, c'est tout à fait hypocrite. Ça m'agace. Bon, allez. Allez, on pose une petite question pour
Allez, une petite question. Le petit bol à question. Non, mais quand même, c'est un des principes de ce podcast.
Tu as le choix. Allez, quand même, entre une petite question chill, une petite question deep ou un petit jeu. Et quand je dis un petit jeu, je vous dis la vérité à vous, auditeurs, auditrices, j'en ai mis qu'un dans le bol.
Eh ben, tu es début de l'émission, surtout tu le dis pas, et en fait, ouais, c'est elle qui voit la mèche.
Allez, on est trop honnête. Je viens de parler d'hypocrisie, je peux pas. Moi, je vous dis la vérité, en fait.
J'avoue que du coup, maintenant, j'ai envie de. T'en as mis qu'un seul, donc je me dis, il a intérêt d'être sacrément bien. Donc, j'ai une partie de moi envie de le prendre. Et de l'autre côté, j'aime bien les mes questions un peu métaphysiques, un peu deep, et donc j'ai envie de piocher.
Elle veut aller dans le deep.
Allez, vas-y, je pense que je vais dans le deep. Comment est-ce que tu te lis le mieux avec d'autres personnes?
Ouh.
Ah oui, en effet, question deep.
C'est un peu deep.
Je l'aime bien.
Par quoi passe la connexion, quoi?
Quand je connais pas quelqu'un, c'est le sens de la
question. Oui, comment tu deviens ami, enfin, tu vois, comment pour moi, c'est un peu, c'est ça, c'est comment tu crées un lien avec quelqu'un le plus facilement.
C'est encore un peu mystique, j'ai l'impression, pour moi, parce que c'est très récent dans ma vie de vraiment créer des liens d'amitié et tout ça. Parce que pendant très longtemps, j'avais absolument pas... J'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. Et du coup, je me rappelle, j'avais un petit carnet quand j'étais petite où je notais des expériences pour me faire des amis et tout, parce que je comprenais pas comment ça marchait. Et
tu intellectualisais le...
Ouais, de ouf.
La notion d'amitié.
Ouais, exactement. Et en fait, j'ai l'impression que... j'ai fait toute la première partie de ma vie où j'essayais de jouer un rôle... De quelqu'un que je n'étais pas, parce que j'étais persuadée que c'était comme ça que j'allais pouvoir me faire aimer, parce que j'avais jamais reconnu rien d'autre que le harcèlement et le fait d'être pas kiffée par les autres. Et l'instant où j'ai commencé vraiment à me dire hey, on s'en fiche, et vraiment être toi-même, et puis parler des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas, c'est très bateau ce que je suis en train de dire, je parle de mes passions et ça passionne d'autres gens. Il y a un peu de ça, il y a un petit peu de... ouais, je sais pas, j'ai l'impression que la sincérité,
avoir une passion commune,
la passion, oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne porte d'entrée, mais j'ai l'impression que ce qui crée du lien, c'est l'authenticité, c'est le fait d'être capable de se montrer comme un petit carrelage avec ses fêlures. Mais c'est vrai. Et quand on crée cette proximité de « tiens, c'est drôle, on a des expériences en commun » ou « j'arrive à empathiser sur certaines expériences que tu as pu vivre » ou « ça crée du lien et de la connexion » et même y compris avec des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs. J'imagine que dans vos auditrices et vos auditeurs, il doit y avoir plein de gens qui éprouvent de l'affection pour vous alors qu'ils ne vous connaissent pas, parce qu'ils arrivent à empathiser avec certains de vos propos et avec ce que vous transmettez à travers un écran ou ici à travers des petits écouteurs.
Donc, et après, hop, une fois qu'ils nous rencontrent dans la rue,
En fait, bof. Et toi, Justine?
Moi, je pense le. Je rejette pas mal les nouvelles personnes dans ma vie. C'est terrible. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup d'amis et beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de personnes proches de moi, d'amis et de famille, et du coup, j'en ai pas trop besoin de plus. Et c'est horrible, dit comme
ça. Non, mais t'as déjà un gros entourage.
Oh, oui, j'ai déjà un gros entourage, et j'essaye de bien... Et en fait, c'est très important pour moi, l'amitié, et surtout à entretenir. Je me vois pas du tout ne pas entretenir mes amitiés. J'ai besoin de les entretenir vraiment, mais bien, comme
Une voiture.
Comme une voiture que tu laves, quoi, tu vois, tous les jours. et que tu inspires à l'intérieur et tout.
Et j'aspire mes pneus.
On dirait qu'il y a zéro sincérité dans ce que je dis, que des blagues. Et donc je suis ouverte quand même pour rencontrer des gens des fois, mais pas trop à les faire rentrer de fou dans mon cœur, sauf s'il y a un vrai gros coup de cœur.
Mais
évidemment.
Avec tes amis du coup là, comment tu t'es liée avec eux? Tu t'en souviens ou pas?
Eh bien, j'allais plutôt partir sur les nouveaux parce que en fait mes amis ils datent trop. Je sais pas comment on s'est liés. On s'est liés à l'école. Oui.
Justine en fait c'est la psychiatre qui a un an de liste d'attente.
Vraiment.
Alors j'ai prends un ticket en fait si tu veux être mon ami. Numéro 67.
Et là il y a quelqu'un qui dit salut en fait moi c'est Ludivine, j'aime bien le sport.
Mais tu dis non c'est bon. Suivant.
Mais je sais pas, on peut pas avoir genre 100 millions d'amis.
Mais non, mais t'as raison. Mais t'as parce qu'il y en a qui n'ont pas eu des dizaines
oui,
en
oui,
lycée.
Bien sûr, bien sûr.
Moi, j'ai vraiment d'amis
tout,
de lycée. J'en ai deux,
tous mes copains, copines de lycée, on est un très, très gros groupe. Et du coup, j'ai pas la place mentale pour accueillir de nouvelles personnes en amitié, on va dire.
Là, si tu
mais donc, je pense que le lien, moi, que j'ai le plus effectué, connu, et qui est encore le cas, c'est vraiment l'humour, je pense. C'est vraiment la meilleure manière pour moi de rencontrer des gens. Et du coup, si je vais pas dans l'amitié, mais plutôt dans les rencontres amoureuses, quand j'étais sur les applis, j'ai beaucoup traîné sur les applis de rencontres, l'humour ou rien, genre si on rigole pas dès le tout premier truc, c'est pas la peine. Donc du coup je pense que c'est ça qui me lie plus facilement en tout cas c'est clairement pas le small talk. Toi non plus Camille,
j'adore quand on se dit vraiment la météo et tout.
Salut,
c'est
ça va
passion.
Tu fais quoi dans la vie?
Non, ça c'est éliminatoire. Moi c'est définitivement effectivement beaucoup l'humour pour me faire des potes. C'est vraiment sans m'en rendre compte, surtout avec les mecs, je dois dire. Pour les amis mecs, ça va souvent passer par là. Les filles aussi un peu, mais plus les gars.
Mais les gars, vraiment, ils sont plus drôles, non?
Déjà, ils sont plus marrants, les filles, elles sont pas marrantes en général. Non, mais les gens, en fait, les gens globalement avec qui je rigole, mais c'est pas juste on se fait une blague, c'est les gens avec qui je fais un délire qui s'arrête pas, où on délire, du délire, du délire, du délire, et du coup, on va vouloir se mettre à côté pour se faire des blagues, on va se faire des regards de ah, ça t'a fait rire. Enfin, vraiment, ça peut très vite me créer une amitié.
Amitié top délire, du coup.
Ouais, top délire. Et après, en fait, ce qui marche, c'est quand c'est des gens avec qui je connecte fort en humour et qu'ensuite, il y a un switch et on a des grosses discussions et des gens avec qui je peux switcher de se taper le cul par terre de rire, mais prom dog, genre vraiment
du
roule par terre. Ah, on a des discussions extrêmement intimes et passer de l'un à l'autre. Quand je vois que je passe de l'un à l'autre avec ces gens-là, c'est que c'est devenu mes amis en général.
Mmh. Ok, du coup, je pense que je vais dire comme vous finalement, je change ma réponse, je retourne ma veste.
Non mais c'est vrai,
c'est parce que j'avais pas anticipé.
On a amené.
Je pensais plus comment, enfin, je croyais que la question c'était plus comment est-ce que toi tu crées du lien, et moi c'est vrai que ça passe par cette étape justement d'intimité. Émotionnel, mais c'est vrai que le starter pack, le tout démarrage, ça reste aussi pareil, l'humour et le fait. En fait, je trouve qu'avoir un humour similaire aussi, c'est un truc de... Enfin, il y a plein de types d'humour différents, pour autant, on va pas rire des mêmes choses, et le fait de rire de quelque chose de similaire ou d'avoir le même type d'humour, je trouve que c'est déjà un très bon indicateur.
Ouais, ça rapproche.
De la même entente intellectuelle sur qu'est-ce qui va te faire rire et comment est-ce que tu vas rire. D'ailleurs, très bon outil sociologique,
les blagues et le rire et tout ça.
Mais ouais, du coup, c'est vrai que si ça commence bien par les bonnes vannes, potentiellement, ça veut dire que les discussions un peu deep sont aussi cool.
Et à titre, moi j'ajouterais un petit truc à titre plus perso, c'est que je sais que je suis un peu brute, je suis brute de décoffrage, tu vois, genre.
Brute de pomme.
Et ce qui va aussi pour
comme
moi,
le cidre.
Ouais, c'est ça. Je suis vraiment un cidre, bien brut, toi. Et pour moi, ce qui va vraiment fort jouer si je vais pouvoir devenir amie ou pas avec une personne, c'est si je vois qu'elle est pas heurtée par mon caractère, qu'elle capte que en fait je suis pas quelqu'un de méchant, ou je suis pas que je peux être maladroite ou que j'ai une forme d'agressivité quand je parle que je maîtrise pas. Ou pas toujours, et que parfois je sors un peu des trucs sans filtre, mais que c'est. Et si, quand je sens qu'en face de moi la personne est très vite heurtée, je me dis ça va pas marcher. Parce
et assimile ça, genre elle est pas sympa, c'est qu'elle a pas capté comment t'étais.
Ça va me demander trop d'efforts de faire des ronds de jambes, de devoir adoucir tout ce que je suis et tout. Je me dis là, ça va pas, on va pas matcher parce que ça prend pas quoi.
Mais
là,
vraiment faire des ronds de jambes, ça me fume comme expression, je peux pas
m'en.
Dès que je l'entends,
je vois ma jambe.
Moi je vois vraiment les deux jambes comme ça, arquer, faire un gros rond en l'air.
Moi j'imagine, tu sais, quand tu fais de la danse un peu classique, ta jambe elle fait ouh ouh, mais une seule, pas les jambes arquées. Je fais un rond genre avec la pointe de mon pied, tu vois.
Est-ce que je peux rajouter une question? Et au pire des cas, si ça fait
bien
trop
sûr,
long, on la coupera, mais c'est juste parce
sûr.
Que ça m'intéresse. À l'inverse, c'est quoi le truc genre rédhibitoire? Ou quand vous cernez ça chez quelqu'un, du coup, ça. Excusez-moi, je parle plus dans le micro. Quand vous cernez ça chez quelqu'un, ça fait un petit effet de.
Ça va pas le faire.
Moi, c'est les faux gentils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les gens que je sens être tout doux, mais qu'en fait, un peu passif-agressif. Tu vois, genre qui en fait, j'y crois pas. J'ai les gens que j'y crois pas quand ils parlent. Je sais pas si c'est très clair. Mais il y a des gens comme ça qui pour moi sont sur une note fausse de gentillesse.
Du coup, qui vont te faire un peu une remarque ou un reproche dans le sourire comme ça. Ouais. T'aimes pas ça, toi.
Non, j'aime pas.
Quand on rencontre quelqu'un comme ça, après tu me dis.
J'aime pas. Quand je me suis pris un scud. Comme ça, à l'air de rien, dans quelqu'un qui était censé être calme, et les gens, ils sont là, oh, elle est douce, cette personne, et moi, je suis là, mais t'as pas entendu, en fait, quand elle a dit ça, c'est archi méchant. J'aime pas ces gens sur cette vibe. J'aime pas.
Mais c'est peut-être que t'es parano aussi.
Oui.
C'est elle reconnaît. Elle me dit pas c'est non, n'importe quoi, aucun rapport.
Ah oui, je suis très vite dans. Et du coup, cette personne me déteste. C'est pour ça que j'ai besoin de voir que la personne m'a un peu comprise. Ouais. Parce que sinon, je me dis, ah putain, elle me déteste, et du coup, elle va le dire aux autres, et les autres vont me détester. Donc oui, c'est une parano.
Moi, je pense que, pour le coup, alors j'adore rire et tout, mais les gens uniquement dans la blague. En continu, ça peut fort m'agacer. Du coup,
c'est trop drôle que
du
coup, les deux soient liés à l'humour.
Ouais.
C'est ton filtre.
Ah ouais, vraiment. Parce que vraiment, on peut se rencontrer sur de l'humour, et comme tu disais, un humour qui nous anime deux personnes, je trouve ça vraiment hyper intéressant, parce que je trouve ça très vite... révélateur quoi. Évidemment, si on me cale un gros humour de raciste, je vais on va pas rigoler ensemble, allez ciao, tu vois. Donc il y a des humours qui sont, il y a une multitude d'humours, mais évidemment quand il y a des rendez-vous, ça fait trop plaisir quand t'as vraiment le même humour, c'est trop bien. Mais du coup, par contre, rencontrer quelqu'un pour moi qui est vraiment uniquement dans la blague, humour qui s'arrête jamais, et vraiment à qui au bout d'un moment t'as envie de dire on peut parler sérieusement ou ça n'arrive jamais, ça c'est quelque chose qui me rebute à fond. Je me dis on ne pourra pas, du coup, avoir de discussions sérieuses. Et ça va me poser problème. Parce qu'il faudra passer de l'humour à l'intime, à un moment donné. Tout à fait.
Je t'ai fait un vieux clin d'œil.
Ouais, vraiment, dégueu.
Je ne l'ai pas vu.
Robert.
Je regrette.
Mais avec moi, tu pourras passer dans l'intime, t'inquiète pas.
Mmh. Et toi ?
Les gens qui puent de la gueule.
Mais quoi ? Mais c'est pas de leur faute. Hein.
Non, je crois qu'étonnamment, ça... Alors, c'est très spécifique. Mais c'est les gens qui d'ailleurs c'est en lien avec la valeur dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais c'est les personnes qui vont avoir un discours de type, je caricature mais c'est ça en substance, non mais moi je suis pas méchante, je dis simplement la vérité, moi je parle avec mon cœur, je ne peux pas faire autrement, en fait je suis grande gueule, mais c'est parce que c'est moi en fait, et je peux pas m'abstenir de dire la vérité,
et de dire des
trucs
méchants.
Je suis honnête et je suis là, non Stéphanie, en fait il y a une nuance, si je viens de te solliciter et que je te demande est-ce que tu trouves ma robe chum, et que tu me dis bah franchement girl elle est un peu chum ta robe, là tu es honnête. En revanche, si tu débarques et tu fais meuf ta robe est dégueulasse, là tu es juste un être humain absolument abject. Voilà, la frontière est fine, mais il faut la percevoir. Et ça, en fait, ce truc-là, j'ai l'impression que c'est... Alors, peut-être que je me trompe, je dis pas not all, je suis honnête. Mais en gros, j'ai l'impression que ça traduit surtout un espèce de manque de remise en question où derrière un couvert de pseudo-honnêteté, on se permet d'avoir des propos un peu blessants ou d'être assez incisif. Et je suis pas forcément très fan de ça, genre du côté très grande gueule, et en plus de ça c'est un côté où je suis assez introvertie et ça a tendance à me mettre un peu genre dans ma carapace où j'ai trop peur de l'autre.
Oui. Tout à fait, je rejoins aussi.
Je trouve qu'il y a un côté un peu malhonnête où sous couvert d'une valeur qui serait noble, on se permet en fait d'avoir des comportements qui sont pas okidoki et qui transversent un peu aussi le consentement et les limites de l'autre. Voilà.
Très fan de pas okidoki.
Ouais, vraiment. Et surtout le caler.
Oh là là, le caler comme
ça. Tu sais, juste après une phrase hyper élégante.
Et surtout ne pas le caler en mode ça va, ça te va si on fait ça, okidoki. Mais là, non, c'est pas okidoki.
C'est un mème à la base, je sais pas si vous l'avez. C'est Mario qui a des yeux laser et il est en mode This is not okidoki.
J'adore.
Pas mal.
Non, c'est vraiment pas okidoki.
Je vous l'enverrai.
Et vous savez ce qui serait okidoki par contre, c'est de faire le petit top-lop. C'est moi maintenant qui chante ce jingle.
Ah ouais,
okay, j'ai
super.
Envie.
J'adore le générique. Il s'agit de nous recommander ou de ne pas nous recommander une œuvre quelconque que
quelle
tu aurais lue, vue, entendue, écoutée récemment et voilà, dont tu as envie de parler.
Alors, on peut commencer si tu veux réfléchir, mais j'ai l'impression que tu es bien partie.
Non, ben moi j'en ai plein, mais en fait c'est ça le souci. Dans les pas récentes, mais qui sont un peu genre les trucs que je fais que de rabâcher tout le temps, mais d'un autre côté je trouve ça important, je suis une énorme fan de Madeleine Miller, qui est une autrice qui parle principalement de mythologie, mais en fait elle revisite un petit peu certains mythes et tout. Et elle a notamment écrit deux bouquins pour l'instant qui s'appellent Le Chant d'Achille et Circé, deux œuvres absolument genre à s'en taper le cul par terre.
De rire
non,
ou
non,
de
non,
connaissance.
Non, c'est vraiment genre non, c'est même pas de connaissance, c'est tu chiales tes grands morts quoi, c'est vraiment c'est
tu t'attendais pas à celle-là. Hein. elle me surprend à chaque fois.
Non, c'est pas genre juste triste point, c'est que c'est très joliment raconté, il y a toute une dimension derrière, on s'attache au personnage, c'est trop bien fait, c'est trop, et c'est une façon de voir la mythologie qui est elle s'appuie donc sur les mythes qui existent déjà et elle les revisite avec des éléments narratifs ajoutés. Maintenant, c'est le principe d'un mythe, il est fait pour vivre, donc c'est okidoki. Et c'est très bien fait, c'est très joli. Donc ça, je le recommande à chaque fois, globalement, c'est la petite reco que je fais toujours. Et sinon, en plus récent, je me suis fait l'intégralité du podcast de Mimi Hegel, qu'elle anime avec Tequila Tex, sur House
c'est
of
le gars de TTC
non, de...
Tequila Tex, c'est qui?
Okay, c'est, il me semble que c'est un DJ, et ouais, du coup, il fait aussi
pardon.
Du podcast.
Ouais. Oui, toi, tu penses à...
Bon, c'est pas grave, c'est pas grave.
Si, en plus, je crois que c'est TTC.
Je vérifierai. Si j'ai raison, je le garde. Comme ça, je passe pour une
conscience.
Si j'ai tort, je le coupe. Comme ça, personne ne sait que je me trompe.
Et du coup, c'est le podcast sur House of the Dragon. Je ne sais pas si vous avez regardé la série.
Non.
Et ben, du coup, ils ont fait un podcast sur cette série-là où ils décortiquent chacun des épisodes. Mais en fait, c'est trop bien fait. C'est trop drôle. Et à chaque fois, je les dévorais. Et au point où vraiment ça m'a fait acheter le livre. Et en ce moment, je bastine un peu tous mes potes avec ça parce que je le trouve.
C'est adapté d'un livre, House of the Dragons.
Ouais,
complètement.
Les de George ouais.
Il les a écrits
Martin.
Avant ou après Game of
Thrones ? Je saurais pas te dire parce que je suis pas assez nerd.
Okay.
Mais Mimi pourrait te répondre, mais elle n'est pas là. Elle est quelque part actuellement.
Et comment s'appelle le podcast ?
Il a pas de nom, il me semble que c'est House of the Dragon, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, si vous tapez Mimi Hegel sur Spotify ou j'en sais rien, vous tombez dessus.
Cool,
et très stylé, ouais, très bonne reco. Il faut que je cite un truc que je recommande pas.
Si t'as envie, ça peut faire plaisir.
L'Holocauste.
Je recommande pas l'Holocauste. Je recommande vraiment pas.
Bof, faites pas ça.
J'ai découvert un podcast qui a été recommandé dans un autre podcast et puis j'ai oublié. Mais du coup, ce podcast en question s'appelle Exologie, une vie de célibataire. Et c'est un podcast France Culture en 5 épisodes. J'ai écouté que 2 épisodes, donc je peux pas vous recommander l'entièreté, mais j'aime juste bien le concept. C'est. Des meufs et des mecs qui sont célibes et qui vont vers et qui font le tour de leurs ex pour savoir pourquoi ils ou elles sont célibataires aujourd'hui.
Trop stylé.
Et ouais, c'est assez cool.
Tu pourras m'envoyer ?
Ouais, grave. Et c'est vraiment bien, c'est des épisodes de 30 minutes et ils sont très bien construits et je trouve ça grave intéressant et c'est, je sais pas, des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et la démarche elle est quand même cool, genre ouais. d'aller rechercher ses ex pour dire t'as pensé quoi de moi à ce moment-là ? Pourquoi on s'est quitté déjà ? Enfin, tu vois, ils retracent un peu leur vie de quand ils étaient ensemble.
Je pourrais pas faire ça.
Non, moi non plus, putain. Oh non, je n'en parle plus à aucun déjà. Alors,
allô ? Moi, je serais comme ça. Pourquoi tu m'as quitté ? tu sais pas ce que t'as perdu.
Ouais, grave, je jouerais pas du tout bien le jeu.
Moi, je pense que je serais un peu salée, genre, alors, tocard, on trompe toujours ses meufs ?
Ouais, non, mais grave. Ah ouais, moi aussi, je serais salée. Là, c'est
piquante.
Très doux.
Tu serais un tiers.
Je serais un tiers et honnête. Mais je n'ai écouté donc que 2 épisodes, donc je sais pas s'il y a pas du salé sucré après. Voilà. Mais en tout cas, très intéressant. Ça change.
Bah oui, tu recommandes un podcast.
Ouais, t'as vu.
Cool. Bravo.
Franchement.
Moi, je vais recommander une série qui est sur Arte qui s'appelle Cher Tendre. C'est une série française qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Sacha qui débarque dans un nouveau lycée. Et en fait, on comprend que Sacha, c'est une personne intersexe et qu'elle a été élevée comme un garçon, mais qu'en fait, elle s'identifie plutôt en tant que fille. Et donc, on sent que le passé a été un peu compliqué et que c'est pour ça que, notamment qu'elle a déménagé. Et en fait, je trouve que la série a des défauts à mon goût. Je suis très, très consommatrice de séries et j'apprécie peu les séries françaises parce que je trouve que souvent, ça se joue assez mal. Pour moi, celle-là n'échappe pas trop à la règle. Ça joue pas très bien. Ça, c'est pour le défaut. Mais en vrai, c'est archi intéressant parce que c'est très rare d'avoir des contenus. Et là, c'est vraiment une fiction sur les personnes intersexes. Et franchement, c'est un questionnement. Enfin, parce que du coup, on apprend aussi les mutilations génitales que ces personnes subissent, et c'est vraiment hardcore. À un moment, t'as un cercle de paroles de personnes intersexes, et vraiment, ils racontent un peu ce qu'ils et elles ont vécu. C'est terrible, c'est vraiment terrible, ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent. Et Sacha a une petite sœur, et tu sens aussi comment tu fais quand t'es la petite sœur de quelqu'un qui a des problèmes dans la vie, et que comment toi, tu trouves ta place, alors qu'elles s'adorent, les deux sœurs s'adorent, mais c'est compliqué. Enfin, bref, et puis c'est pareil, c'est compliqué en termes de sexualité, puisqu'elle était un garçon, puis en fait, elle s'est sentie plus une femme, mais en même temps elle est intersexe, donc elle a peut-être le droit d'être au milieu, et du coup est-ce qu'elle est amoureuse des filles, des garçons, enfin il y a un truc vachement sur l'identité de genre et
l'identité
sexuelle, les attirances, est-ce que t'aimes les filles, est-ce que t'aimes les mecs, mais du coup est-ce que t'es gay, lesbienne, t'es quoi, enfin sans forcément appuyer parce qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots, mais bon en tout cas voilà, c'est une série qui est assez cool sur Arte. C'est des épisodes de 30 minutes et il y en a 10.
Chair tendre, comme la chair.
Tendre. La chair, ouais, comme ouais. La chair tendre. Et voilà, je reste pas très fan des séries françaises parce que vraiment, le jeu, en fait, le jeu d'acteur, moi, c'est d'actrice, c'est quasiment ce que je mets au premier plan quand je vais au cinéma avec le scénar. C'est vraiment les deux trucs. Et du coup, j'avoue que dans les séries françaises, j'ai toujours un petit bémol sur le jeu. Et tu disais comment ça se fait. En vrai, j'en sais rien. Je comprends pas non plus. Parce qu'au cinéma, ça me fait pas du tout la même chose. Les films français ne me choquent pas, j'adore.
Ah, putain, moi,
et en série, j'ai vraiment du mal, c'est une cata. C'est très dur pour moi, vraiment.
Et t'as regardé Mental ou pas, que j'ai recommandé dans le podcast d'avant.
Juste après. Mais là,
tu m'en diras des nouvelles quant au jeu, parce que je trouve vraiment que c'est très bien joué.
Oui, tu l'avais dit, effectivement. Donc je vais regarder, ça m'intéresse.
Et chair tendre, ça me dégoûte. C'est ce que les gens ils disent quand ils mangent une bonne viande.
C'est l'idée que la chair est malléable, probablement.
Bien sûr.
Bon, en tout cas, voilà, je vous invite à regarder ça, et aussi pour en apprendre un peu plus sur les personnes intersexes, qui est quelque chose qu'on connaît peu. Et je comprends, parce que je crois que j'ai déjà fait des collages féministes sur les mutilés, enfin disons arrêter de mutiler les personnes intersexes, c'est pas ça le texte, mais en gros en parlant de ça, et j'avais pas assez conscience de à quoi ça faisait allusion, et en fait ouais c'est un peu terrible, donc voilà c'est cool. Mais la série après elle est quand même sympa parce que ça reste une ado, donc tu vois aussi sa vie au lycée, enfin dire c'est aussi un peu rigolo, un peu léger, c'est pas que hardcore et deep.
Et puis en plus voilà. C'est Arte, donc on aime bien faire des recos de création originale Arte, c'est cool.
Oui, de ouf.
Et ben en tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Oui,
c'était très intéressant comme discussion.
Oui, grave. Bah de toute façon, ouais. En témoigne le si peu de questions qu'on a fait, non pas que ceux avec lesquels on... Oula, attends.
C'est tweeté.
Non, mais c'est que parfois justement les gros sujets viennent dans les bols à questions. Oui. Et là, en fait,
parfois,
on a été
ils viennent comme ça. Avant. Comme ça, au galop.
Sur le parcours des gens, quoi.
Oui, et le tout. Et voilà. Et sachez que Charlie a fait tout le podcast avec Minette collée à elle.
Ouais, toute je suis venue pour ça. Hein. On m'a vendu un chat, je n'ai pas été déçue.
Elle s'est collée comme never.
Si les gens veulent te suivre, ils peuvent te retrouver sur YouTube. Ta chaîne qui s'appelle Les Revues du Monde, non pas Charlie Danger.
Non.
Et Instagram.
Mais quand tu tapes Charlie Danger, on arrive sur Les Revues du Monde.
Oui, vous tombez dessus. Et par ailleurs, je fais le mini instant promo parce que pourquoi pas, allons-y. Et parce que j'ai fait une grosse pause et là, j'ai envie en 2023 de casser les culs. Pas littéralement, en tout cas, pas sans consentement, mais enfin, de façon très respectueuse. Mais en gros, je vais sortir une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler L'Histoire en gros, et qui est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Alors mes épisodes, c'est plutôt des trucs un peu construits, des vidéos de plus de 20 minutes, et même s'il y a toujours de l'humour et toujours de la légèreté, etc., on rentre quand même dans des questions un petit peu deep. Et en plus, je fais pas de l'histoire en mode « Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille de nanana. » Alors d'abord, il s'est passé ça, et ensuite, il s'est passé ça. En général, j'essaie de toujours problématiser les questions qui sont abordées sur la chaîne. Donc, ça va donner des trucs du genre « À quoi ressemblaient les humains du passé ?» ou des trucs comme ça, où vraiment, on s'interroge, on utilise plein de spectres de la science pour répondre à la question. Anyways, j'ai complètement dérivé. Et donc là, on va sortir une sorte de série où l'objectif c'est de faire des épisodes ultra courts de moins de 5 minutes qui sont plutôt à destination je dirais de ma génération ou même de la génération d'en dessous, donc ceux qui consomment des TikTok et tout dont je fais partie, très
un peu plus jeune public.
Voilà, un petit peu plus jeune public, mais pourquoi, c'est parce que ça va être un format hyper rythmé. En fait, je sais pas si vous avez connu les YouTube Poop, ça vous dit quelque chose ou pas du tout?
Non
les caca YouTube mais
ouais, les YouTube Poop, c'est un format de vidéo qui se faisait beaucoup il y a quelques années et encore aujourd'hui, où en gros c'est des trucs un peu absurde avec des cuts et des montages dans tous les sens de plein de trucs, et c'est un type d'humour moi qui me fait très très rire à titre personnel, et je me suis dit j'ai trop envie de faire ça mais en format histoire. Et donc ça donne, là on en a fait un sur la Première Guerre mondiale, mais ça part dans tous les sens, et enfin je vais pas vous faire l'affront d'essayer de refaire des blagues parce qu'il faut voir le truc, c'est dur, moins de 5 minutes, donc vraiment vous pouvez y aller.
Et c'est sur YouTube.
Alors ça va être sur YouTube et ça sera aussi sur tous les formats verticaux, donc TikTok et compagnie.
Ok, trop bien.
Et est-ce que tu t'appelles partout Les Revues du Monde ou tu t'appelles Charlie Danger sur les autres réseaux?
Sur tous les réseaux, je m'appelle Charlie Danger. Et juste, en fait, Les Revues du Monde, c'est le nom de l'émission principale que j'anime.
Okay.
Maintenant, c'est Charlie Danger qui fait les trucs derrière.
Okay.
Et voilà. Et du coup, ce nouveau format, j'en suis très contente parce qu'en plus, ça va être l'occasion. En gros, je vais reprendre plein de thématiques du format justement du programme de Histoire Collège, Collège Lycée et tout ça. Donc des trucs que tout le monde a vu ou des trucs que tout le monde connaît. on se souvient plus forcément, où on sait plus trop et tout. Et donc si les gens se disaient putain c'est quoi déjà l'histoire de Charlemagne, je sais plus trop, hop moi je vais le faire, donc ça fait des petites piqûres de rappel en moins de 5 minutes et de façon hyper drôle et tout, et je trouvais ça fun. Et en même temps je vais donner en libre accès à tous les professeurs qui veulent ces vidéos là ils peuvent les utiliser sans droit, sans rien payer, etc. en début de cours, s'ils veulent faire des amorces pour essayer d'intéresser les élèves à ces questions là parce que c'est vrai que parfois c'est difficile de se mettre dans le bain. Donc du coup voilà, c'est le nouveau format qui va sortir d'ici 2 semaines.
Ou alors qui est déjà sorti. Ouais.
Ou alors qui est déjà sorti.
Sort dans
peut-être.
Ouais, il sera déjà sorti.
Est-ce que vous vivez dans le futur ? Est-ce ça le métaverse ?
C'est vrai que c'est ça. Hein, on parle dans le futur.
Oui, c'est vrai.
Coucou future Camille, j'espère que ça va aujourd'hui quand tu vas monter cet épisode.
Grave.
J'espère que tu vas bien.
Tu te laisses un petit mot.
Tu sais que je fais ça. J'ai un journal intime que je tiens depuis que j'ai genre 20 piges. Et en fait, je commence chaque entrée en disant « Cher Charles du futur ». Et en fait, je m'adresse à ma moi qui aura 40-50 piges, parce que je sais que je relis mes journaux intimes. Et donc, c'est une sorte de lettre continue que je me fais à moi-même. Et je partage, genre par exemple, je me fais réfléchir moi-même. Genre, aujourd'hui, je pense ça de tel sujet, est-ce que ton avis a changé ? Je me fais des quiz et
trop
tout.
C'est trop
mignon.
Parce que là, je pensais plus à Ross dans Friends qui se laisse des messages sur sa messagerie. Oui. Il dit « Ross, tu es fort, tu es
là. » Je fais ça dans mon chemin là-dessus.
Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Il faut que tu fasses une série, genre.
Tu viens dire Cher Charlotte.
Cher Charlie.
Charlie. Ah d'accord. Je me suis dit quoi depuis le début. Elle s'appelle Charlotte et c'est un surnom. Elle s'appelle Charlie. Quoi
non. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager ce moment, ce long moment avec nous.
Oui.
Qui était tout à fait génial.
Merci à vous les filles pour l'invitation. Ça m'a fait trop plaisir.
Avec plaisir.
Merci.
À bientôt. Merci.
Merci.
Bye.
Tout.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous, en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.